Chapitre 13. Février-avril 1968. L'article fut soumis à Nature le 4 février. Officiellement, c'était la fin de l'étude des pulsars pour Jocelyn, qui devait maintenant se consacrer uniquement aux quasars et à la détection de leur scintillation. Ewish avait demandé à John Pilkington de prendre le relais sur l'analyse des trois autres pulsars qu'avait trouvé Jocelyn. Mais le fait d'avoir détecté quatre spécimens de ces sources pulsées en l'espace de 2 mois apporta un certain remous dans l'équipe de Anthony Ewish. C'était une découverte comme on en faisait rarement. Ewish reçut la réponse de Nature le 11 février. L'article était accepté sans demande de révision. Il fut publié dans le volume 217 le 24 février. Il fut étonné de la rapidité du processus de publication pour ce journal très réputé qui était très sélectif. L'éditeur du journal avait sans doute compris l'importance de ce qu'ils annonçaient. Ewish se réjouissait à l'avance d'avoir trois autres pulsars dans ses tiroirs. Il fallait maintenant se dépêcher de faire leur caractérisation fine, de la même façon que ce qui avait été fait avec CP1919, car nul doute que plusieurs équipes, à la lecture de l'article, chercheraient de leur côté d'autres sources pulsées. Il paraissait évident qu'en annonçant la découverte des trois autres, ils pourraient facilement publier à nouveau dans Nature, et peut-être plusieurs articles consacrés aux différentes mesures qui seraient faites. Mais le revers, c'était que toute la communauté radioastronomique était déjà certainement partie en quête de sources pulsées dès qu'ils avaient lu le premier article. Il n'y aurait donc pas trop de temps à perdre si on voulait rester les leaders dans ce créneau des nouvelles sources radio. 2 jours après la publication, le 26 février, Ewish reçut un appel téléphonique de quelqu'un qui se présentait comme un journaliste et qui voulait parler de l'article qu'il venait de publier dans Nature au sujet de la découverte d'un signal radio étrange. Ewish n'avait pas du tout envie d'avoir un journaliste dans les pattes et il lui répondit de s'adresser à son étudiante, Jocelyn Bell, qui pourrait lui répondre. Puis il prévint tout de suite Jocelyn qu'un journaliste allait sans doute la contacter au sujet de CP1919. C'est à cause des petits hommes verts, c'est pour ça?
Je n'en sais trop rien. C'est possible qu'il parle de ça. Surtout, évite de le lancer là-dessus, hein. Dis-lui bien qu'on a trouvé un nouveau type de source d'origine astrophysique, qu'il n'aille pas s'imaginer des choses.
Oui, bien sûr, j'expliquerai bien les choses.
Bien, bien.
Il ne fallut pas attendre très longtemps. À peine quelques minutes. Le téléphone sonna et Jocelyn décrocha. Jocelyn Bell, laboratoire Cavendish.
Bonjour, je suis Andrew Firnell, journaliste au Daily Telegraph. Le professeur Anthony Ewish m'a envoyé vers vous. C'est au sujet d'une découverte que vous venez de publier dans Nature.
Oui, Anthony Ewish m'a prévenu de votre appel. Que puis-je pour vous?
J'aimerais parler dans mon journal de votre découverte qui semble extraordinaire.
Oui, pourquoi pas? Je peux vous expliquer des choses si vous voulez, répondit Jocelyn.
En fait, est-ce qu'il serait possible de venir vous voir pour faire une interview?
Une interview?
Oui, je pose des questions et je note les réponses.
Oui, pourquoi pas. Vous connaissez Cambridge?
Un petit peu, j'y suis déjà venu pour interviewer un scientifique il y a quelque temps maintenant. Ce que j'aimerais aussi, c'est prendre quelques photos pour illustrer mon article. Qu'en pensez-vous?
Vous voulez me prendre en photo?
Ah, parce que c'est vous qui avez fait la découverte?
Oui, c'est un travail d'équipe.
Vous êtes astronome, donc, c'est ça?
Demanda le journaliste, qui semblait étonné d'entendre une voix féminine.
Oui, c'est ça. Peut-on prendre rendez-vous pour faire cette interview? Et j'aimerais aussi prendre une photo de votre télescope, donc, avec vous devant, par exemple. Ça ferait une jolie photo. Alors, si vous voulez prendre en photo le télescope, il faudra sortir de Cambridge et aller un peu dans la campagne, à une dizaine de kilomètres.
Mais ce que je vous propose, c'est que l'on peut faire l'interview ici, au laboratoire Cavendish, et ensuite on pourra se rendre à l'observatoire Mullard. Vous pourrez m'emmener? Je n'ai pas de voiture, et il n'y a plus de trains qui font le trajet. Mais tout à fait, cela me paraît tout à fait bien. Est-ce que jeudi matin vous irez? Disons vers 9 h.
Oui, ça m'irait.
Le laboratoire Cavendish est sur Free School Lane, dans le centre de Cambridge. Vous ne pouvez pas le rater. Merci beaucoup, mademoiselle. À très bientôt.
Il raccrocha.
Jocelyn se tourna vers son voisin de bureau. Oh là là, on va parler de moi dans le journal. Qu'est-ce que je vais dire? Il faut pas que je raconte n'importe quoi.
Andrew Firnell était un homme plutôt grand. Il portait une grande sacoche de laquelle dépassaient un grand calepin et un gros étui qui devait contenir un gros appareil photographique de type réflexe portable. Des petites poches sur le devant contenaient des boîtes de pellicules. Il se présenta à l'entrée du laboratoire Cavendish, une cigarette aux lèvres, en disant qu'il était envoyé par le Daily Telegraph et qu'il avait rendez-vous avec Miss Bell. Jocelyn s'était installée dans la salle du rez-de-chaussée, dans laquelle les invités extérieurs étaient reçus, et où avaient parfois lieu des grandes réunions. Elle avait pris avec elle plusieurs feuilles de notes, ainsi que les enregistrements de l'IPSA du 28 novembre, pour montrer aux journalistes ce qu'étaient les données avec lesquelles elle travaillait tous les jours et qui avaient mené à la découverte des sources pulsées. Elle l'avait entendu dans le couloir de l'entrée et était sortie de la salle spontanément.
« Bonjour, monsieur, je suis Jocelyn Bell. Je vous attendais. »
« Enchanté de faire votre connaissance. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. »
« Je vous en prie.
Ce n'est pas tous les jours que des journalistes s'intéressent à notre travail. Je vous propose que nous nous installions dans cette salle. J'ai préparé quelques documents qui pourront servir à vous montrer comment nous travaillons. »
« Très bien, je vous suis. »
Ils s'installèrent rapidement sur le bord d'une longue table qui pouvait accueillir 20 personnes. Jocelyn avait laissé la porte entrouverte de manière à ce que la fumée de cigarette n'envahisse pas toute la pièce.
« Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez, si vous le voulez bien, » commença Fiernel.
« Je m'appelle Jocelyn Bell, je suis étudiante en thèse ici, au laboratoire Cavendish, dans le groupe de radioastronomie, sous la direction du professeur Anthony Hewish,
avec qui vous avez co-signé cet article paru dans Nature. »
« Oui, c'est ça, ainsi que nos collaborateurs. »
« Vous êtes la deuxième auteure de l'article, le professeur Hewish est le premier auteur, c'est ça? Vous l'avez écrit ensemble ?»
Oui, c'est ça, comme c'est souvent le cas dans la recherche scientifique. Nous rédigeons des articles pour annoncer les découvertes que nous pouvons faire. Plusieurs personnes ont travaillé pour produire ces résultats et les différentes personnes sont co-signataires.
Quel a été votre rôle exact dans cette découverte?
J'ai tout d'abord construit notre radiotélescope, avec d'autres personnes du laboratoire, bien sûr. Cela nous a pris 2 ans. Et puis, j'ai ensuite fait des tests avec ce tout nouveau radiotélescope. Et puis, nous avons enregistré des données que j'ai analysées manuellement.
Vous avez analysé les données? Qu'est-ce que cela signifie plus précisément?
Demanda Fiernel.
Eh bien, ce qui sort des récepteurs du radiotélescope, ce sont des centaines de mètres, je devrais même plutôt dire des milliers de mètres, de papier d'un enregistreur graphique qui reproduit le signal radio qui est détecté. Mon travail consiste à scruter ces enregistrements pour reconnaître la nature des signaux qui sont détectés en fonction de la position correspondante dans le ciel. La découverte dont nous parlons dans cet article de Nature est une découverte fortuite. Je ne cherchais pas cela lorsque je l'ai vu.
C'est vous qui avez découvert ce signal ?
Oui, je l'ai vu une première fois en août dernier, puis nous avons amélioré notre enregistreur et j'ai pu le revoir à nouveau à la fin de novembre de l'année dernière. Maintenant, nous essayons de comprendre de quoi il peut s'agir.
Andrew Firnell était très attentif à tout ce que disait Jocelyn. Il notait tout ce qu'elle disait mot pour mot
sur son grand calepin en écrivant très vite. Dans votre article de Nature, vous dites que vous avez considéré l'hypothèse d'un signal d'extraterrestre. C'est bien ça?
C'est-à-dire que nous ne savions pas à quoi cela pouvait correspondre. Nous avons donc dû tout imaginer, même les hypothèses les plus farfelues.
Farfelues?
Tant que nous n'étions sûrs de rien.
Et maintenant, vous êtes sûr de quelque chose?
Nous ne pouvons jamais vraiment être sûrs de ce que nous avançons.
Jocelyne sentait qu'elle arrivait sur une pente glissante. Il fallait qu'elle revienne le plus vite possible dans une zone plus ferme. Nous avons réalisé plusieurs vérifications très élaborées qui nous ont permis d'écarter certaines hypothèses, notamment celle d'une origine d'une civilisation extraterrestre.
Comme par exemple, demanda Fiernel.
Eh bien, vous voyez, nous pouvons détecter si le point source de ce signal pulsé est lui-même en mouvement, comme la surface d'une planète est en mouvement. Et nous ne détectons pas un tel mouvement. Cela indique que le point source ne se trouve pas sur une planète.
D'accord, je vois.
Nous appelons ça l'effet Doppler.
Fiernel notait.
Et alors, pouvez-vous m'expliquer en quoi ce signal est si particulier ?
Eh bien, ce qui le rend unique, c'est le fait qu'il soit répété avec une période de pulsation très précise, qui ne change jamais, comme une horloge extrêmement précise.
Et vous disiez que c'était une découverte fortuite ?
Complètement. Je suis tombé dessus complètement par hasard, alors que je faisais des tests de fonctionnement de mon radiotélescope.
Votre radiotélescope ?
Notre radiotélescope, pardon. Il ne m'appartient pas.
Jocelyne riait.
Je vis avec lui depuis plusieurs années maintenant. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu naître même. C'est un peu mon bébé. Mais c'est l'outil de toute une équipe, bien sûr.
Ça ne vous dérangerait pas si je prenais quelques photos de vous devant ce radiotélescope tout à l'heure ?
Oh non, pourquoi pas ?
Merci. Pour revenir un petit peu sur votre parcours, j'ai l'impression que c'est plutôt rare de rencontrer des jeunes femmes qui étudient l'astronomie à haut niveau. Je me trompe ?
C'est exact, c'est plutôt rare.
Et qu'en pense votre petite amie ?
Jocelyne fut décontenancée par cette question à laquelle elle ne s'attendait pas du tout.
Pardon ? Vous avez un petit ami ou un fiancé ? Que pense-t-il de vivre avec une astronome qui fait des grandes découvertes ?
Oui, il se trouve que je viens tout juste de me fiancer, mais je ne pense pas que cela soit très intéressant pour votre article, n'est-ce pas ?
Très bien, il n'y a aucun problème, je comprends.
Fiernel se reprit.
Quand avez-vous commencé ce travail à Cambridge ?
Je suis arrivé ici en 1965. J'ai commencé par la construction du télescope, qui a duré assez longtemps, jusqu'à l'été dernier en fait, et depuis, je l'utilise autant que je peux.
Et vous veniez d'où ?
Vous avez peut-être reconnu mon accent, sourit Jocelyne. Je suis d'Irlande du Nord, et j'ai fait mes études de physique à l'université de Glasgow, avant de venir ici pour ce travail de thèse.
Ça doit vous changer, répondit Fiernel. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'engagent dans de telles études, n'est-ce pas ?
C'est très vrai. J'ai toujours été entouré de groupes de garçons. Et même encore aujourd'hui.
Et ça ne vous dérange pas ?
En quoi cela me dérangerait-il ? Non, je fais ce que je dois faire. Si quelqu'un estime qu'une femme ne peut pas effectuer un travail d'homme, je le plains. D'ailleurs, c'est quoi un travail d'homme ?
Et pourquoi avoir choisi l'astronomie ? Demanda le journaliste.
Disons que c'est plus la radioastronomie qui m'a attiré. L'astronomie des ondes radio, si vous préférez. J'ai toujours adoré la physique, l'électromagnétisme, la gravitation, la physique de la matière, ce genre de choses, depuis toute petite. Je trouve cela fascinant de pouvoir observer le ciel en plein jour, ce que permettent les radiotélescopes, contrairement aux télescopes classiques. Et puis, je crois que je n'avais pas trop envie de travailler la nuit.
Revenons sur cette découverte passionnante.
Quel a été le rôle du professeur Ewish, qui est le premier auteur de l'article de Nature?
Il est mon directeur de thèse. Il supervise mon travail. Il me donne des indications, des idées, des pistes à suivre, des conseils aussi. Et puis, il fixe les objectifs à atteindre.
Oui, mais cette découverte n'était pas prévue dans le travail de votre thèse, n'est-ce pas?
C'est exact. Le professeur Ewish m'a aidé dans l'analyse du signal et a proposé des idées pour mieux cerner ce que pouvait être cette source.
Comme la mesure de l'effet Doppler, par exemple?
Pas pour cette vérification-là, non. Mais pour d'autres vérifications, comme l'utilisation simultanée de deux radiotélescopes, par exemple.
Et puis, nous avons cherché ensemble des explications à partir de plusieurs travaux théoriques.
Justement, dans votre article, vous parlez d'étoiles de neutrons. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que c'est une étoile de neutrons?
Nous disons une étoile à neutrons, en fait. Une étoile à neutrons, c'est une étoile qui aurait la même masse que le Soleil, mais qui serait extrêmement comprimée sur elle-même. Elle serait tellement comprimée que tous ses atomes seraient collés les uns sur les autres et il ne subsisterait plus que des neutrons, d'où leur nom. Mais ces astres sont tout à fait hypothétiques aujourd'hui.
D'accord. Si je vous suis bien, si votre explication pour ce signal pulsé est correcte, cela serait une preuve directe, par l'observation, de l'existence de ces astres hypothétiques?
Absolument. Ou cela se pourrait, répondit Jocelyn.
Firnel la regarda en écarquillant légèrement les yeux.
Ça serait extraordinaire, non?
Demanda-t-il.
Sans doute, oui. Mais il existe aussi d'autres explications qui impliquent des étoiles moins hypothétiques, même si c'est un peu difficile de concilier toutes leurs caractéristiques.
Les fameuses étoiles naines blanches, c'est bien ça?
Demanda Firnel, qui avait lu plusieurs fois l'article de Nature pour essayer de le comprendre.
Correct, c'est une possibilité intéressante aussi.
Et si nous allions voir ce fameux télescope?
Dit Firnel en reculant sa chaise et en fermant rapidement son calepin.
Ah, si vous me ramenez ensuite, répondit Jocelyn en souriant.
Sans problème.
Jocelyn lui avait raconté un peu l'historique de l'observatoire Mellard dans la voiture, du moins tout ce qu'elle avait pu entendre de la bouche de ses collègues techniciens durant la phase de construction de l'IPSA. Elle commença par lui faire faire un petit tour des différents radiotélescopes qui y étaient installés. Firnel avait sorti son appareil photo et le gardait en bandoulière autour du cou.
Puis ils arrivèrent sur le terrain de l'Interplanetary Scintillation Array, son terrain de jeu.
Elle l'abreuva de détails techniques plus abscons les uns que les autres, où il était question de récepteurs, de connecteurs, de longueurs de câbles, de dipôles, ainsi que d'interférométrie et de moutons. Firnel prenait des photos de cette énorme surface entremêlée de fils métalliques et de poteaux de bois qu'il avait du mal à associer à un télescope. Cela ressemblait plus aux premières antennes radar qui avaient été construites pendant la guerre.
J'aimerais prendre une photo de vous avec le radiotélescope en arrière-plan, si ça ne vous dérange pas. Vous pouvez vous mettre ici, un peu sur le côté, s'il vous plaît?
Voilà, c'est parfait.
Un petit sourire?
Très bien.
Maintenant, est-ce que vous pourriez faire un gros sourire? Très joyeux, hein? Comme si vous veniez de faire une très grande découverte, vous voyez?
Vous pourriez même lever les bras ou sauter en l'air en criant « Eureka !»
Vous pourriez faire ça pour la photo?
Jocelyn rigola en entendant la demande de Firnel qui continuait de shooter.
Vous êtes sérieux?
Oui, c'est pour la photo, c'est pour bien illustrer la découverte que vous avez faite.
Bon, c'est bien parce que vous êtes sympathique, hein, mais je trouve ça un peu bizarre quand même, rétorqua Jocelyn.
Je le fais une fois, hein, c'est tout. Hein?
Elle lança ses bras vers le ciel en criant « J'ai trouvé des pulsars !»«
Superbe! Merci, mademoiselle Belle! Cela va faire une très belle photo pour illustrer l'article, je crois. »
« Vous faites toujours des mises en scène comme ça dans vos articles ?» demanda Jocelyne.
« On essaye d'illustrer au mieux ce qui est écrit dans l'article. » Je suis sûr que vous étiez très heureuse lorsque vous avez fait cette découverte, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai, je n'ai pas sauté en l'air, mais j'ai peut-être un peu crié, j'avoue,
souriait Jocelyne.
Vous avez dit, pour la photo, des pulsars,
reprit Firnel.
On ne parle que d'un seul objet dans votre article de Nature, si je ne me souviens bien. Il y en a d'autres?
Jocelyne comprit qu'elle avait trop parlé. Elle savait que Hewish et Pilkington avaient prévu de parler de l'observation des quatre pulsars devant la Royal Astronomical Society, et il ne fallait pas que ça sorte dans la presse avant, surtout pas. Elle mentit à Firnel.
En fait, il s'agit d'un seul pulsar, effectivement. Mais on est quasi sûr maintenant qu'on va pouvoir en détecter d'autres avec cette méthode de détection. Et ce radiotélescope très performant.
Andrew Firnell semblait satisfait de la réponse de Jocelyne.